La physique compte beaucoup parce que la physique, c'est le passeport de quelqu'un.
Le corps a une histoire, deuxième épisode, et ses disgrâces aussi.
Quand je suis né, le bon Dieu, il était ailleurs. Il n'a pas pu s'occuper de moi. Alors, vous voyez le résultat.
Oh, mais tu es très bien, Auguste. Tu as ce qu'on appelle une laideur intelligente.
Ne te fatigue pas, allez. J'ai une glace et je me vois tous les matins.
Portrait de Michel Simon par Paul Guth.
J'ai recopié ce portrait. Je vous ai demandé si vous acceptiez de le lire et le commenter si le cœur vous en dit.
Le menton forgé à coups de marteau. Ça commence bien. Lui remonte jusqu'au milieu du visage. Ses joues se gonflent en deux ballons de chair entre lesquels s'enfouit le losange de la bouche qui s'ouvre et se ferme en coulissant. Au-dessus du nez de boxeur, cassé, blindé de plaques de chair, règne la grâce. Alors là, il se rachète, il a des remords. Lavé de tout soupçon, il s'accorde avec les cheveux bouclés qui ressemblent à ceux des pâtres grecs. C'est de la belle littérature. Mais enfin, est-ce que le portrait est fidèle? Alors ça, c'est à vous de juger.
Est-ce qu'il correspond à ce que vous voyez dans la glace le matin quand vous vous rasez?
Moi, je ne demande pas mieux que d'avoir des boucles de pâtres grecs. C'est un tas de choses qui me plaisent là-dedans. C'est une caricature bienveillante, parce qu'il y en a eu d'autres qui étaient méchantes.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Avec, comme hier, dans ce deuxième épisode consacré à la laideur et aux disgrâces, Georges Vigarello, si... Bonjour Georges Vigarello.
Bonjour.
Si vous aviez pu, en plus de l'histoire du corps, de l'histoire de la beauté, de l'histoire de la virilité, etc., pu faire une histoire de la laideur, comme Umberto Eco s'y est essayé, vous auriez pu mettre en exergue ce portrait tout en contraste.
Ah oui, ce portrait est vraiment intéressant pour plusieurs raisons. Je pense que il renvoie à l'inverse de ce que nous avions dit hier. Hier, nous avions beaucoup insisté sur la symétrie, l'harmonie, les canons que la beauté pouvait exprimer. Et là, évidemment, c'est pas la même chose, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'harmonie, il y a une dissymétrie, il y a même des mouvements qui sont des mouvements heurtés. Et en même temps, ce texte confirme des choses que nous disions hier, à savoir que l'intériorité peut parler. Et on trouve très bien dans la deuxième partie du texte, le regard, l'expression, et je trouve que c'est très important. Il faut peut-être ajouter le fait que la laideur, c'est un sujet vraiment important parce qu'il est ambigu. Et on voit très bien qu'il y a quelque chose qui repousse, et dans l'objet même qui repousse, il peut y avoir une dimension sourde, souterraine, qui crée quand même de l'attirance.
Il n'y a pas beaucoup de livres sur la laideur. Je crois que le premier qui s'y est employé a publié une esthétique de la laideur, s'appelait Karl Rosenkranz, et justement, il insistait sur le fait que l'intériorité se dévoilait par la laideur, ne serait-ce que par le caractère incertain du regard, que deux fois on a dit de Michel Simon que peut-être il avait une drôle de vie, et ça s'expliquait par son physique,
bon, cette évidemment, rumeur. Non, évidemment, la tradition, c'est celle-là. On le voit très bien sur la beauté. La beauté, dans le texte, les textes grecs que nous avons écoutés hier, la beauté renvoie à une âme qui est noble. Et on peut parfaitement penser l'inverse lorsqu'on parle de la laideur de la sorcière renvoie à une âme qui est sordide. Il n'en reste pas moins. Personnellement, je maintiens, il n'en reste pas moins qu'il y a une certaine ambiguïté. Et que cette ambiguïté, c'est inutile de renvoyer à Freud, que cette ambiguïté peut faire exister une sourde attirance et dans une certaine mesure, une sourde esthétique. Il y a un autre livre que j'ai beaucoup aimé personnellement et qui est récent, c'est celui de Claudine Sagaert, qui s'intitule « La belle femme » ou plus exactement « Le beau sexe et la laideur ». Et c'est un livre très intéressant parce que il souligne précisément l'ambiguïté dont je viens de parler.
Mais le beau sexe a peut-être un goût pour la variété, la singularité. Comme on disait Victor Hugo, il y a peu de types de beauté, mais alors il y a mille laits.
Exact.
Et
Il y a 1000 laits.
Donc, et là, on possibilité voit très bien, de choix plus grande.
Non, c'est évident. Et on voit très bien qu'un certain nombre d'illustrateurs se sont livrés à ce genre de choses et donnent une multiplicité extraordinaire. C'est surtout des illustrateurs du 19e, d'ailleurs. Je pense parce que ce sont des illustrateurs qui se sont progressivement libérés de la grande influence qu'exerce le repère des proportions. Ils sont libérés. Je pense à Daumier, à Cham, à Granville. C'est remarquable parce qu'effectivement, il y a cette diversité dont vous venez de parler.
Enfin, la libération, elle a commencé avant. Peut-on la dater comme beaucoup de choses dans notre beau pays de montagne? Notre premier sujet, ça va être la monstruosité. Il y a tellement de laits que Dieu seul peut en faire l'inventaire. Il y a tellement de monstres que Dieu seul peut discerner leur caractère.
D'un enfant monstrueux. Chapitre 30. Ce conte s'en ira tout simple, car je laisse au médecin d'en discourir. Je viens de voir un pâtre, en Médoc, de 30 ans ou environ, qui n'a aucune montre des parties génitales. Il a 3 trous, par où il rend son eau incessamment. Il est barbu, a désir et recherche l'attouchement des femmes. Ce que nous appelons monstres ne le sont pas à Dieu qui voit en l'immensité de son ouvrage l'infinité des formes qu'il y a comprises. Et est à croire que cette figure qui nous étonne se rapporte et tient à quelque autre figure de même genre, inconnue à l'homme. De toute sa sagesse, il ne part rien que bon et commun et réglé, mais nous n'en voyons pas l'assortiment et la relation. Ce qu'il voit fréquemment, il ne s'en étonne pas, même s'il en ignore la cause. Ce qu'en revanche il n'a pas vu auparavant, il estime, s'il le voit advenir, que c'est un prodige. Nous appelons contre nature ce qui advient contre la coutume. Rien n'est que selon elle, quel qu'il soit. Que cette raison universelle et naturelle chasse de nous l'erreur et l'étonnement que la nouvelleté nous apporte.
Ce que nous appelons monstres ne le sont pas à Dieu, qui en a vu d'autres, tandis que les hommes du Moyen-Âge auxquels succède Montaigne, ils avaient une appétence, une curiosité insatiable vis-à-vis de toutes les monstruosités qu'on pouvait faire monter sur scène.
Mais Montaigne est un humaniste et on voit très bien qu'il insiste sur la coutume. Et finalement, la monstruosité nous étonne parce qu'elle sort de la coutume. En revanche, je reviens à ce que vous disiez sur le Moyen-Âge. Je trouve que c'est très important. Parce que le Moyen-Âge a une vision selon laquelle, finalement, la monstruosité, c'est soit ce qui manque, soit ce qui est de trop, de tête, ou par exemple le manque des testicules dont parlait Montaigne dans le texte que nous venons d'entendre. Mais en fait, ce qui me paraît très important dans cette vision médiévale et ancienne, c'est l'idée selon laquelle, lorsque un être apparaît avec ce manque ou avec cet ajout, c'est une sanction. C'est une décision de Dieu qui nous envoie un être que je qualifierais de hors nature et qui, par là même, nous punit. C'est ça qui est vu, je pense, dans la tradition. Et c'est ça qui fait que tout un ensemble de textes sont sortis, les fameuses feuilles volantes, etc., tout un ensemble de textes sont sortis pour montrer finalement à quel point Dieu peut nous punir en faisant apparaître sur la scène du monde des êtres qui sont totalement informes.
Oui, mais on s'y habitue en même temps. Regardez les monstres qui sont représentés sur les chapiteaux des églises du Moyen-Âge, ou bien sur les miséricordes, c'est-à-dire l'endroit
bien
où les chanoines dans les stalles,
oui, tout à fait,
du cœur, assoient leur postérieur.
Vous avez raison, mais je continue de penser que ce qui sont mis en scène, ils sont montrés, ils sont illustrés comme sanctions possibles, comme retour finalement de Dieu contre nous. Regardez ce que je peux faire, regardez à quel point vous pouvez finalement vous trouver face à des êtres qui sont totalement hors nature. Alors qu'au 19e siècle, et de ce point de vue, Montaigne est un jalon, si je peux dire, alors qu'au 19e siècle, ces types d'échapper à la nature seront expliqués par la nature, ce qui est tout à fait différent, et pas par un geste venu du divin.
Montaigne, jalon, qui va faire, par exemple, l'éloge des femmes boiteuses.
Oui, bien sûr. Oui.
Alors, on continue notre inventaire.
Très bien. Hein,
vous pouvez nous dire un mot de l'origine de « en bon point » Georges Vigarello.
Vous me posez une colle à laquelle je ne peux pas répondre.
Bah si,
pour la
bon
raison
point.
Très simple.
Ça vient des trois mots, j'ai lu ça
entendu,
chez vous.
Bien entendu, mais vous avez absolument raison. C'est en bon point, c'est-à-dire finalement, c'est les personnes qui sont en bon point ont un point qui est bon. Parfait. Mais définissons-le.
Ah, le point juste, en juste point, en exact point.
C'est ça qui est très intéressant dans l'histoire de l'obésité. C'est que finalement, il y a une manière de désigner ce qui échappe à la norme, et en revanche, il n'y a pas la manière de soit lui donner un chiffre, soit lui donner un nom précis. Donc si on part dans l'embonpoint, vous avez du coup des tests qui vous disent « elle est en mauvais point ». Elle est en bon point, elle est en très bon point ou elle est en très mauvais point. Mais est-ce que cela va nous permettre de désigner? C'est beaucoup plus compliqué.
Je vous interromps parce que
interrompez-moi.
Vous employez tout de suite le mot obésité. Je sais que vous avez fait une histoire de l'obésité. Moi, je voulais prendre un exemple contemporain de Montaigne, le Falstaff de Shakespeare. Est-ce qu'il est lourd ou est-ce qu'il est obèse? Est-ce qu'il est fécond? Est-ce qu'il est puissant ou est-ce qu'il est débile? Lui-même ne sait pas très
absolument
bien.
Absolument, on va l'écouter.
Pourquoi te compromets-tu avec cette outre d'humeur maligne, cette barrique regorgeant de bestialité, ce sac gonflé d'hydropisie, cette énorme citerne de Kérès, cet amoncellement de boyaux, ce bœuf rôti baignant dans sa graisse, cette soupière de fange, cette iniquité chenue, ce grand-père des ruffians, cette vanité décrépite? À quoi est-ce qu'il est bon, à part goûter le vin sec et l'avaler? Quel mérite a-t-il en lui, à part découper un chapon et le manger? Où est sa canaillerie? Dans tout. Sa vertu? Dans rien.
Je voudrais que votre grâce m'explique de qui parle votre grâce.
De cet infâme et abominable suborneur de la jeunesse.
Falstaff.
Vieux souteneur à barbe blanche, Satan.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
On sait nous aussi, Georges Vigarello, dans cet éloge de la monstruosité, de la laideur, maintenant de l'obésité que nous tentons, mêler le 19e siècle et les périodes antérieures. J'évoquais le Falstaff, d'abord mis en scène par Shakespeare. Alors ce Falstaff, il n'arrive pas à lasser ses souliers, ni même à cause de la proéminence de son ventre, à voir le bout de ses pieds. En même temps, il est sympathique, en même temps, il est de bons conseils. C'est une hésitation qui caractérise ce moment.
D'abord, ça renvoie à une image assez traditionnelle qui est la suivante. L'enrobement, la grosseur, à la fois, on revient sur le problème de la laideur, à la fois quelque chose qui est repoussant et en même temps quelque chose qui suscite la jovialité, la compréhension, l'attachement au plaisir, etc. Donc là, il y a une première ambiguïté. Mais il y a une deuxième chose qu'il faut dire sur Falstaff, c'est que ce texte est d'une richesse considérable quant aux mots. Et je pense que c'est un des premiers textes qui s'attache avec autant de diversité pour qualifier finalement quelque chose qui est de l'ordre... Alors, j'avais dit obésité tout à l'heure, c'est vrai que c'est un mot beaucoup plus tardif, mais qui est de l'ordre du gros, vous voyez.
Je voulais que je fasse quelques citations que j'ajoute aux mots qu'on a déjà entendus il y a un instant. Grosse boule, pâté de foie gras, vieux paillard, pourceau, lourd de bedaine.
Ben oui, mais alors, on voit bien qu'il y a progressivement une sorte d'attachement à décrire avec le plus de diversité possible ce gros qui est relativement repoussant. Et lorsque vous prenez des textes antérieurs, vous avez beaucoup moins de richesse sur les mots. Parce que le gros est quand même quelqu'un qui a une puissance, qui a une sorte de présence, de force, de densité, et qui sera au contraire plus ou moins discuté et refusé à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe. J'ajoute une troisième chose qui me paraît très importante. C'est que ces textes que nous écoutons, ces mots que nous les lisons avec des repères qui sont ceux d'aujourd'hui. Et c'est très difficile de retrouver les repères anciens. Aussi bien quant à la couleur du corps dont nous parlerons tout à l'heure, que quant aux formes du corps dont nous parlons en ce moment.
Alors il y a l'épaisseur du temps là qui rend difficile Absolument. L'exercice. À propos d'épaisseur, ne me dites pas que vous n'allez pas pouvoir me répondre. De quoi
j'ai essayé de vous répondre
sont faites les matières du gros? Les liquides, les graisses, les humeurs,
que sais-je. C'est une question tout à fait importante et il donne des réponses avec le temps sur ces textes anciens. Vous avez des réponses. Et le gros, dans la tradition, renvoie au moins à trois types de matière, si on peut dire les choses comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais intitulé mon livre « Les métamorphoses du gras », parce qu'il y a une métamorphose des matières, si vous voulez. Donc il y a trois matières. Il y a d'abord l'eau. C'est-à-dire que les individus qui sont gros, ils sont envahis par du liquide, parce que la représentation ancienne du corps, c'est une représentation, ne l'oublions jamais, qui favorise les humeurs. C'est-à-dire les parties liquides du corps, qui sont les parties les plus importantes, celles qui signifient finalement la santé. Il y a une deuxième donnée, qui est liée à la façon dont on dissèque les animaux. On voit bien que dans les animaux, il y a une part qui est celle du muscle et puis il y a une part blanche dont on ne sait pas trop quelle est la consistance, quelle est la composition. Donc on va appeler ça plus ou moins la graisse et c'est pas très précis. Et puis il y a une troisième partie qui est le vent. Alors on le voit bien dans certains textes qui finalement indiquent la manière dont des individus sont condamnés par Dieu. Alors, par exemple, ils ont fait une transgression considérable, Dieu les punit, comment les punit-il? Il leur envoie un vent qui va les transformer en outre, avec cette idée, vous voyez, qu'on oublie, que le corps contient. Et il contient comme une sorte de barrique, comme une sorte de fût. Et à ce moment-là, ce qui est dans un fût, ça peut être du vent, ça peut être de l'eau, et ça peut être cette matière assez curieuse, dont on ne connaît pas exactement la consistance, qui est la graisse, dont on connaîtra la consistance quand la chimie progressera, bien entendu.
Si Dieu intervient, c'est peut-être parce que l'homme gros est un peu responsable. Quand je vous vois si mince de silhouette, Georges Vigarello, j'imagine les silhouettes du XVIIe, XVIIIe siècle. Tenez, le petit duc de Saint-Simon.
Oui.
Alors, dans ses mémoires, quand il décrit, par exemple, la mort de Monsieur, le frère du roi, qui est pris d'apoplexie parce qu'il s'est disputé avec le roi, le visage devient
frère, oui.
Tout rouge, et il va mourir sur le coup. Saint-Simon, doit se dire, est un peu responsable.
Oui,
monsieur,
alors,
de cette mort brutale.
Justement, je crois que c'est un exemple très important, parce que dans le texte de Saint-Simon, on voit bien qu'il y a un avant, qu'il y a ensuite un après. Et cet avant, il est fait d'excès. Autrement dit, qu'est-ce qu'il conteste dans le comportement de monsieur? C'est le fait qu'il dispose de sucreries, qu'il dispose de bonbons, qu'il dispose de gâteaux, ses poches sont pleines finalement de viennoiseries, comme on dirait aujourd'hui, et il s'en nourrit en permanence. Et de ce point de vue, cela renvoie à quelque chose qui est de l'ordre d'abord de la couleur, de plus en plus rouge, et quelque chose de la grosseur. Si bien que Saint-Simon insiste sur le fait que le confesseur même de monsieur l'avait prévenu quelques mois avant, dire non, il faut vous faire saigner. Et monsieur, pour des raisons diverses, dont des raisons de peur d'ailleurs, ne voulait pas. Alors cet exemple-là, j'y insiste, est important parce qu'on voit qu'au XVIIe, il commence à y avoir vraiment une réflexion sur l'avant et sur l'après. Lorsque vous prenez des exemples semblables dans les siècles précédents, je pense en particulier au texte de Froissart, qui décrit l'apoplexie, si tant est qu'on puisse utiliser
tradition
ce mot.
Tradition du Moyen-Âge.
Ouais, au Moyen-Âge, voilà. Froissart, c'est le 15e siècle, 14e siècle. Eh bien, 14e. Lorsqu'il décrit la mort de Gaston de Foix, c'est une mort qui surgit immédiatement. Il ne décrit pas Gaston de Foix comme faisant des excès. Il décrit quelque chose qui surgit et qui vient le saisir, alors qu'on va essayer au contraire de le remplir pour lui redonner de la vie. Alors qu'est-ce qui se passe pour monsieur? C'est le désemplir que l'on ait de la force.
Donc prévention, précaution,
absolument.
Cuisine du XVIIIe siècle qui tend à devenir plus légère. Vous racontez les expérimentations de pesées et de mesures incessantes auxquelles se livrait un médecin de Venise, Sanctorius, qui
oui.
avait inventé une machine qui ressemble un petit peu à nos prothèses d'aujourd'hui qui permettent de mesurer notre pouls pendant qu'on court.
Et vous voyez que tout est lié, et nous renvoyons quand même à la question de l'embonpoint. Parce que dans la question de l'embonpoint, pourquoi je vous répondais comme ça? Parce qu'il n'y a pas de mesure. Il y a un regard comme ça qui dit un mauvais point, un bon point. Que fait Sanctorius? Sanctorius, il installe une balance qui est complètement folle par rapport aux repères d'aujourd'hui, qui consiste à avoir des systèmes d'équilibre dans le plafond. Il s'installe sur cette balance devant son bureau et il passe sa journée sur la balance en voyant comment les choses changent. Qu'est-ce qu'il mesure? Il mesure en fait sa transpiration. C'est le premier à dire notre corps a une perspiration insensible. Tout début du XVIIe siècle. Et donc, il voit que s'échappent des humeurs du corps. Quelle est son inquiétude? Le fait que les humeurs ne s'échappent pas. Et donc, si elles ne s'échappent pas, eh bien, le corps, il va avoir une densité, il va pas être bien, il va être malade. Vous voyez, c'est un des premiers à faire ça. Ce qui ne veut pas du tout dire que les gens vont ensuite se peser. Je pense qu'il y a toute une histoire de la pesée qui n'est pas faite, d'ailleurs. Il y a une histoire de la pesée qui fait que la pesée quotidienne n'intervient, ou en tout cas régulière, n'intervient qu'à la fin du XIXe siècle.
Et bien, attention, il ne faut pas se faire d'illusions. La maigreur peut être une laideur aussi. Mais je voudrais qu'on évoque la question de la couleur. Nous sommes ici dans un conte pour enfants de Michel Tournier, donc un peu intemporel,
oui.
Qui ne tient pas compte nécessairement des réalités du passé. Il imagine un empereur qui s'appelle Nabu-Nazar, dont la barbe dorée et fluviatile, la barbe d'or, était sa fierté. Et puis l'empereur Barberousse, qui contrairement à sa réputation au Moyen-Âge, était, paraît-il, d'après Michel Tournier, extrêmement fier de cette barbe rousse.
Il mettait une espèce de housse pour dissimuler sa barbe et une toque pour dissimuler ses cheveux. Et alors, je me suis dit, voilà un homme qui a un complexe à cause de son poil roux, et il est devenu un seigneur, il est devenu le roi, il faut qu'il ait un portrait officiel. Mais comment ça va se passer? Alors, c'est tout le problème du dialogue avec son portraitiste, qui est le peintre officiel de la cour, et d'abord, le roi lui dit, tu vas me faire en noir et blanc, hein, parce que je veux pas de couleur, moi. C'est une façon de, d'escamoter le problème de la sueur, de la couleur. Et le peintre lui dit, mais pas du tout, mais lui dit, Barberousse, mais suppose que tu as affaire à un roi, et qu'il ait une énorme verrue, enfin, qu'il ait un défaut épouvantable sur la figure. Qu'est-ce que tu ferais? Tu l'escamoterais? Ah, pas du tout, dit le portraitiste. Je le ferais, mais ce serait une verrue royale.
C'est ça, ça c'est très très bon.
Et alors c'est la même chose. Il trouve moyen de faire une rousseur qui est royale.
Michel Tournier soi-même au micro de Gilles Lapouge qui raconte comment Barberousse est fier. Non, devient!
Devient fier, bien sûr,
de sa barbe rousse, parce qu'au départ c'est un handicap, la rousseur.
Ben voilà, vous voyez, on revient au problème des humeurs. C'est parce que les humeurs se décomposent, c'est parce que les humeurs ont une mauvaise, un mauvais mélange, que surgissent des couleurs qui sont inattendues et qui sont désagréables. Et la rousseur a traditionnellement été considérée comme une couleur désagréable à laquelle s'ajoute, nous en parlions d'ailleurs tout à l'heure, tous les deux, à laquelle s'ajoute l'odeur. C'est-à-dire que le fait d'avoir des humeurs qui se décomposent renvoie des odeurs. Donc le roux, il est repoussé pour une double raison, pour une couleur qui semble finalement surprenante, irritante, inacceptable. Et deuxième raison, parce qu'il émane de lui des odeurs qui sont désagréables. Alors ce que fait génialement Tournier, c'est de montrer que la position royale permet d'inverser cette valeur, si vous voulez. Mais il n'en reste pas moins que dans la tradition, la valeur en question est négative.
Bon, on en parlait entre nous, alors il faut que je raconte. Compte encore un souvenir d'enfance. Dans la ferme où je passais mes étés, la maîtresse de maison tenait à l'écart le domestique qui venait du marais, de zones troubles, qui n'étaient pas aussi saines que celles de la côte, et qui, à l'entendre, sentait mauvais. Donc moi, il fallait que je me mette au haut bout de la table.
Mais vous voyez que j'ai bien fait d'évoquer le fait que nous échangeions tout à l'heure sur ce type de questions. Et ça confirme effectivement que dans la tradition, le roux est vu comme un personnage repoussant.
Alors, on peut dire un mot, pour finir, de la saleté, comme étant une des caractéristiques des disgrâces physiques qu'on craint. Alors, on nous a dit Rome, les thermes, et puis après, le Moyen-Âge, la saleté. C'est pas vrai, il y a les étuves dans les villes extrêmement nombreuses. Et on n'a jamais perdu l'habitude dans les campagnes de la nage en eau douce, dans les trous d'eau, par exemple, dans les bassins des rivières.
Absolument, mais en même temps, ce qu'il y a aussi, il faut quand même pas l'oublier, c'est que la vision qui est faite du populaire, dans la tradition, elle est double. Elle est d'une part dans le fait que le populaire a une sorte de disgrâce physique, qu'il peut être contourné, qu'il peut y avoir des bosses, de la dissymétrie, etc. Et en même temps, c'est quelqu'un qui mange des nourritures qui sont plus ou moins repoussantes, qui donc du coup sent également mauvais, ne se lave pas régulièrement. Donc il y a cette vision quand même qui est très importante, me semble-t-il.
Mais dans les étuves des villes du Moyen-Âge, il y avait le populaire et le bourgeois de la ville.
Absolument, mais les étuves ne renvoient pas à des pratiques qui sont extraordinairement quotidiennes. C'est des pratiques, d'abord c'est souvent des pratiques de plaisir et pas tellement des pratiques hygiéniques. Il ne faut quand même pas l'oublier.
De même, on n'a jamais abandonné l'usage de la cuve, du bain, mais simplement il y a une différence entre le bain qui est alimenté à dos d'homme ou à dos de femme à l'étage dans une maison, et puis le bain qui bénéficie de l'adduction d'eau. On va finir cette deuxième émission en entendant quelqu'un que nous admirons l'un et l'autre, qui s'appelle Henri, Roger Henri Guérand, grand historien du corps et du bain, des lieux d'aisance, des bidets, qu'il appelait les pièces d'eau des cuisses.
Et il avait appelé les Suisses, le confident des dames.
Le confident des dames. Et avant de l'entendre, il faut que vous nous révéliez, parce qu'il vous rend hommage à cet instant, ce que vous avez dit des toilettes sèches.
Oui, alors la toilette sèche, c'est une pratique qui a lieu à l'époque classique et qui est liée à une double raison. D'une part, la crainte relative de l'eau. On voit très bien dans les règlements des collèges le fait que si vous utilisez des eaux, l'eau va pénétrer, elle va déchausser vos dents, etc. Il y a une crainte de l'eau. Et par ailleurs, il y a aussi une relative rareté de l'eau. D'où des pratiques qui consistent à s'essuyer, à recouvrir des serviettes, etc., que l'on a complètement oublié, qui semble d'ailleurs complètement aberrante aujourd'hui, mais qui n'en avait pas moins une existence tout à fait réelle et qui s'appelait la toilette sèche.
Ceci étant posé, on peut entendre Roger Henri Guérand, sans lequel une histoire du corps n'est pas possible.
Comme Vigarello l'a magnifiquement démontré, en inventant ce fameux concept de la toilette sèche, à partir du XVIe siècle, on a peur de l'eau, car on croit qu'elle va transmettre la syphilis. Donc les étuves, qui fonctionnaient magnifiquement bien au Moyen-Âge, qui n'étaient pas mixtes en principe, mais qui sont devenues petit à petit, et qui laissaient, mon Dieu, place à certains débordements, ces étuves vont être fermées, et au XVIe siècle, on commence à ne plus se laver, au XVIIe, on ne se lave pas du tout, et au XVIIIe, on se lave moins encore. Et les médecins sont d'accord. Une petite toilette, on se débarbouille un petit peu. La Sophie du marquis de Condorcet écrit dans une lettre à ce garçon « J'apprends que vous prenez des bains, seriez-vous malade ?» Les médecins se rendent compte, à la fin du XVIIIe, ils font un peu de progrès, que peut-être l'eau n'est pas aussi nocive qu'on l'imagine et qu'une toilette complète ferait du bien, car il y a un grand modèle en tout cas qui s'est imposé, c'est celui de Napoléon Ier, le monarque le plus hygiénique que nous ayons eu depuis le commencement des siècles, puisque Napoléon prenait un bain par jour, suivi d'une friction d'eau de Cologne. 1 litre d'eau de Cologne sur le corps de l'empereur. Il disposait de pots de chambre en argent avec N au fond, il disposait de bidets en argent, et le jour d'Austerlitz, il a fait sa toilette intime. Ce bidet a été ensuite légué à son fils, le roi de Rome. Je le cherche toujours, je crois qu'il existe, mais où est-il, je ne sais pas.
C'est un plaisir d'entendre Guérand,
parce que c'est
comme un robinet de baignoire qu'on n'arrive pas à régler. Ça monte la température, ou bien ça descend. Il parle de l'adduction d'eau et de la technique. On a fait de l'histoire culturelle et on n'a pas fait d'histoire technique.
Alors moi je crois qu'il faut ajouter 2 choses. La première, c'est qu'on ne peut pas dire non plus qu'à l'époque classique, qu'il n'y a pas de propreté. Il y a un recours, au contraire, au linge, qui est considéré comme une possibilité de s'entretenir. Le linge, c'est une matière qui est censée attirer la transpiration et le sale, on le change. Donc ça, c'est très important, avec cette croyance selon laquelle, finalement, la propreté ne disparaît pas, bien au contraire. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, oui, bien entendu, toutes les questions qui portent sur ces pratiques sont des questions qui renvoient aussi de la technique. Et l'immense invention à la fin du 18e, c'est de pouvoir conduire l'eau dans de meilleures conditions, c'est aussi recourir ensuite au 19e à l'industrie pour créer, alors c'est fondamental ça, pour créer non seulement le fait que l'eau arrive, mais que l'eau puisse partir, c'est-à-dire les égouts. Donc je crois l'immense travail du 19e, c'est le fait de transformer la ville comme une sorte d'organisme où les flux entrent, mais aussi les flux sortent, alors que dans la ville du Moyen-Âge, les flux sortent très peu.
Le corps, objet d'histoire culturelle, objet d'histoire technique, objet d'histoire économique. Alors je rappelle qu'entre autres ouvrages, vous avez publié une histoire du corps avec Courtine et Corbin. Une histoire dans laquelle on retrouve des articles de Pascal Horry, qui sera notre invité demain.
Oui, qui est un ami.
Vous lui avez demandé de parler de quoi? Parce que il m'a dit, j'ai parlé de ce qui manquait.
Dans l'histoire du corps?
Ouais.
Ah ben il a parlé des pratiques quotidiennes, magnifiquement.
Le corps ordinaire.
Oui, c'est ça.
Et puis, ce sera notre thème dès demain, avant le corps ordinaire, épisode numéro 4. Il a parlé du corps bronzé. Antoine Oberdoff, Eline Canegulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, c'est l'équipe de la Marche de l'Histoire, conduite par Audrey Ripouille pour la réalisation, Pierre-Yves de Rolin à la technique.